On est aujourd'hui le mardi 19 Adar, on est le 6 mars. Le cours sera aujourd'hui pour la réfoua chez les mains d'Avram ben Sultana, Shlomo Chaim ben Simcha, ainsi que pour celle d'Emmanuel Yitzhak Alexander ben Yehudit. Et comme je l'ai annoncé au début de la semaine, je le redis à présent, il s'agit aujourd'hui du dernier cours avant un relativement long moyen moment. Je serai absent jusqu'à la fin de la semaine prochaine, donc il n'y aura pas de cours jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Les cours reprendront le dimanche 11 mars. Maintenant, quoi qu'il en soit, il y aura deux nouveaux cours qui vont être mis sur le site. Le cours de chez la famille Kahal, ainsi qu'un autre cours que j'ai donné cette semaine, que j'ai mis pour l'instant sur mon site Bnei Adam, mais qui figurera sur ce site aussi à partir de demain. Donc demain matin, il n'y a pas cours, mais simplement je tiens à rappeler que malgré tout, demain soir, pour ceux qui sont inscrits au groupe RAI, il y aura un séminaire groupe RAI demain soir, et puis après, je serai absent jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Quoi qu'il en soit, je voudrais faire aujourd'hui un bref résumé. Comme vous le savez aussi, le mardi, le cours est un petit peu plus court pour l'instant, et je voudrais faire un résumé de ce qui a été expliqué cette semaine. Finalement, on a montré que le fondement de l'identité adamique était l'affaiblissement de l'ego, c'est-à-dire l'anéantissement du culte de l'ego. Je cherchais mes mots, je n'ai pas dit la disparition de l'ego, et je n'ai pas dit l'anéantissement de l'ego, mais l'anéantissement du culte de l'ego. Parce que l'ego, évidemment que on est obligé d'être ce que l'on est et de vivre aussi pour soi et pas seulement pour les autres. Il est évident que même dans le bien, comme je ne cesse de l'expliquer, toutes les extrêmes sont extrêmement dangereuses et parfois une extrême dans le bien est beaucoup plus dangereuse que le mal lui-même, comme je l'ai enseigné dans de très nombreux cours. Donc il ne s'agit pas encore une fois de faire semblant de ne pas être ce que l'on est et de vivre uniquement pour les autres et s'oublier complètement. C'est évident que c'est un chemin faux et très 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 dangereux. Mais il s'agit de l'affaiblissement de l'ego, c'est-à-dire de ne pas permettre à l'ego de me fermer aux autres, de ne pas permettre à mon ego de ne pas accepter et supporter les autres. Et ça a été, comme on l'a expliqué, dès le départ, le grand problème d'Adam, parce qu'ayant été créé seul, il n'était pas confronté réellement à d'autres, et finalement il s'est très vite replié sur lui-même, et quand, comme on va le voir aujourd'hui, il a dû commencer à ouvrir les yeux sur un autre que lui-même, ça a été très très dur, et c'est comme ça qu'il est tombé, comme je l'ai expliqué cette semaine, et c'est ça le fondement finalement de la faute. Et le fondement de toutes les fautes et de tous les problèmes de l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Tout le reste, ce n'est que le papier emballage. Tout ne commence qu'à cet endroit précis, et moi, et moi, et moi. Donc, pour construire ou reconstruire l'identité adamique, il fallait cette fois-ci tenter une expérience nouvelle où le bien ne partirait pas d'un individu, mais partirait d'un peuple. Tel que je l'ai expliqué encore hier, encore une fois, ce sont des cours extrêmement importants qu'il faut absolument écouter, réécouter et peut-être même écouter plusieurs fois. Vous aurez l'occasion pendant maintenant plus d'une semaine de pouvoir réécouter les cours de cette semaine puisqu'il n'y aura pas d'autres cours à part les deux que je vais mettre sur le site demain. Mais je voudrais maintenant montrer que finalement, comme je viens de suggérer, avant même la naissance de l'identité adamique au niveau d'un peuple, la sortie du peuple juif d'Égypte, avant même cette renaissance de l'identité adamique, il y a eu une tentative avec Adam lui-même, je l'ai souvent suggéré dans les cours de cette semaine, mais pas suffisamment développé, mais il y a eu une tentative de l'ouvrir vers l'autre, mais ça n'a pas marché. C'était d'une certaine manière l'erreur fatale pour mieux construire et mieux intégrer le véritable problème et pour pouvoir après le résoudre. Mais il y a eu une tentative, c'est tout simplement l'apparition de l'épouse, l'apparition de Chava. Et là, je voudrais revenir sur une approche très très importante, très intéressante, très profonde, en bien sûr précisant que on ne doit même pas effleurer l'ombre de la goutte, de la goutte, de la goutte de l'océan, et vous connaissez la suite de la phrase. Mais malgré tout, des notions importantes. On remarque quelque chose que j'ai souvent suggéré dans mes cours, mais jamais expliqué suffisamment profondément, et aujourd'hui encore, je ne pourrais qu'effleurer, mais malgré tout, en essayant de creuser un peu plus. Quelque chose d'extrêmement bizarre avant l'apparition de Chava. D'abord, l'homme est créé seul. Pourquoi, dès le départ, n'est-il pas créé avec son épouse? D'autant plus que, comme on le sait, d'après les secrets de la Torah, l'homme et la femme sont en vérité une même âme qui en haut est une, avec un côté, une dimension masculine, un côté, une dimension féminine, et en descendant dans ce monde, l'âme est séparée et les deux parties se retrouvent dans le masculin et le féminin, et après ils se retrouvent et reconstituent cette âme qui au départ était une, puis divisée, puis se reconstitue. Donc comment se fait-il que dans le deuxième récit de la création, puisqu'il y a d'abord le récit rapide, les six jours, où là on voit qu'effectivement l'homme est créé Zahar Venekeva, traduction mot à mot mâle et femelle, mais quand après la Torah reprend le récit de la création, elle parle d'abord de la création de l'homme apparemment seul, et après seulement vient la femme. Donc, d'après le deuxième récit de la création, pourquoi n'est-il pas créé dès le départ, comme ça semble être le cas dans le récit rapide des six jours de la création, pourquoi n'est-il pas créé dès le départ avec sa femme? Pourquoi d'abord seul, et puis après seulement elle arrive? Première question. Deuxième question, le deuxième récit semble contredire le premier, puisque dans le premier, on ne voit pas qu'il y a eu un temps entre les deux. Adam est créé dès le départ, Zahar Venekeva, mâle et femelle. Et la troisième question, cette histoire étrange rapportée par la Torah, que avant finalement de comprendre qu'il avait besoin, je parle dans le deuxième récit, avant de comprendre qu'il avait besoin d'une épouse, tous les animaux défilent devant lui, il leur donne des noms, et il conclut lui-même, Adam, qu'il n'a toujours pas trouvé celle qu'il cherche. Et c'est à ce moment-là que finalement, après cette expérience de nommer les animaux et de ne pas avoir trouvé celle qu'il cherchait, c'est à ce moment-là que finalement, Hachem intervient et dit « Bon, ben, puisque tu es conscient, tu en as besoin, je vais te la donner. Tu ne peux pas la trouver chez les animaux. » C'est étrange ce récit. Qu'est-ce qu'il a besoin d'aller chercher chez les animaux pour se rendre compte qu'il a besoin d'une épouse? Alors en vérité, la réponse à ces trois questions est très 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 profonde. Il est vrai que dès le départ, l'homme a été créé Zahar Venekeva, selon le premier récit. Mais la Torah est précise dans son langage, une précision à faire rougir de honte la science, tellement la Torah est plus scientifique que la science, comme je ne cesse de le dire depuis des années. La Torah n'utilise pas les mots époux, épouse, mari et femme dans le premier récit. Zahar venekeva, mâle et femelle. C'est-à-dire finalement une relation homme-femme très animale. Tu n'es là que pour subvenir à mes besoins. J'ai besoin de quelqu'un qui me fasse à manger, qui repasse mon linge, et elle a besoin de quelqu'un qui part à la chasse pour amener de quoi manger et de quoi faire des habits. Dans l'image de l'homme des cavernes, et même après. Chacun a besoin de l'autre. La femelle a besoin du mâle, le mâle a besoin de la femelle, et puis ils se reproduisent comme les animaux. C'est-à-dire que la vie est à un niveau très, 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 très matériel, animal. C'est exactement ce à quoi fait allusion l'histoire des animaux qui défilent devant Adam et il ne trouve pas celle dont il a besoin. Cette histoire reprend finalement ce qui se cache derrière la nomination de l'homme étant Zahar Venekeva, mâle et femelle. Ça veut dire que finalement, même sa relation à la femme était une relation animale. Il donnait des noms aux animaux, c'est-à-dire qu'il était absolument incapable de comprendre que le monde qui l'entoure, ce ne sont pas que des animaux. Il voyait le monde des créatures à l'extérieur de lui, tous comme des animaux, y compris la femelle qui était à ses côtés. C'est ce à quoi font allusion nos maîtres dans leur langage d'une subtilité et d'une codification inimaginable lorsqu'ils disent que justement, que jusqu'au deuxième récit, l'homme et la femme étaient dos à dos. C'est-à-dire qu'ils étaient dos à dos. Le maître du monde s'est trompé. Il y a eu un bug dans la machine. Ils ne peuvent pas sortir tout de suite face à face. Le dos à dos est un concept, bien évidemment. Ça veut dire qu'on n'a aucun échange, aucun dialogue. On est dos à dos. Même si on se regarde comme on regarde son chien, on regarde son chat. Et donc, finalement, chacun n'est là que pour subvenir aux besoins de l'autre. C'est seulement après que l'homme prend véritablement conscience que finalement le premier perdant dans cette situation, c'est lui-même. Il n'arrive pas à se construire. La civilisation finalement du chien ou du chat domestique, aujourd'hui, dans le monde occidental, il y a plus d'hommes et de femmes qui ont un chien ou un chat à la maison que d'hommes et de femmes mariés. Et même ceux qui sont mariés, ils ont aussi un chat et un chien. La civilisation de l'animal domestique est fondamentalement la reproduction dans l'histoire de ce passage inimaginable dans la Torah qui, des millénaires à l'avance, nous a prévenus de ce qui se passerait et nous a révélé finalement la véritable nature de l'homme. L'homme a besoin d'animaux. Rien de plus. Parce que avoir un chien, avoir un chat, c'est l'avantage, le bénéfice, le plaisir, sans obligation, sans contrainte réelle. C'est vrai, il faut se lever des fois à 6h du matin pour aller sortir le chien pour qu'il fasse ses besoins. Mais c'est quand même moins, beaucoup, beaucoup, beaucoup moins embêtant et difficile à supporter qu'une femme à ses côtés. Et donc, finalement, la culture de l'animal domestique est l'expression la plus extraordinaire de ces deux versets qui disent que les animaux ont défilé devant l'homme jusqu'à ce qu'ils comprennent que non, ce n'était pas le bon chemin pour se construire. Mais pourquoi il a commencé par des animaux? Parce que c'est le culte de l'ego. J'ai besoin de donner de l'amour et d'en recevoir, mais sans que ça me dérange. Un chien, il te donne beaucoup d'amour. Tu peux lui en donner. Quelqu'un qui a eu un chien pendant longtemps pleure profondément, est réellement triste lorsque le chien meurt. Un chien qui perd son maître est capable de courir pendant des centaines de kilomètres pour le retrouver, comme on le sait. C'est un véritable amour, mais un amour facile, parce qu'il est sans contrainte réelle, qui touche l'intériorité de l'être, parce qu'il n'y a pas de combat. Finalement, l'animal, il fait ce que je veux. Il est complètement soumis à la volonté de mon ego. Ça me donne la possibilité d'aimer, de recevoir de l'amour, mais sans déranger mon ego. Au contraire, je ne lui fais que du bien. C'est C'est pour ça que jamais il y aurait une civilisation où le culte ou la culture de l'animal domestique aurait été aussi extraordinairement importante que dans notre civilisation, qui est la civilisation qui, plus que tout autre, va élever l'ego à un niveau à dépasser le bon Dieu lui-même. Alors c'est ça tout ce que la Torah nous raconte. D'abord, c'est mâle et femelle. Chacun n'est qu'un animal pour l'autre. Jusqu'à ce que l'homme prenne conscience, mais je ne peux pas avancer comme ça, c'est pas possible. Parce que finalement, je vais devenir un animal moi-même. Alors pourquoi le maître du monde n'a pas tout de suite créé l'homme et la femme, dans le sens de l'époux et l'épouse? Pourquoi d'abord le mâle et la femelle, qui sont en vérité des concepts qui vont traverser l'histoire jusqu'à aujourd'hui, comme je viens de l'expliquer? Parce que justement, la Torah n'est que le récit de l'histoire à venir. Le récit a un niveau de profondeur quasi divin. Mais ce n'est que le récit de l'histoire. C'est pas à Dieu de créer dès le départ l'être humain époux et épouse. Parce que ça se mérite. C'est un travail, c'est un long travail qui va prendre toute l'histoire. Et en vérité, toute l'histoire humaine, comme je l'ai dit dans des centaines de cours, tous les conflits idéologiques, philosophiques, religieux, économiques, politiques, territoriaux, tous les conflits entre les hommes, entre les peuples, les civilisations, les religions et tout le reste, tous les conflits ne sont que le reflet du premier fondamental conflit entre l'homme et la femme. Tant que l'homme et la femme sont au niveau de mâle et femelle, alors le monde est le monde que nous connaissons et que nous avons connu jusqu'à aujourd'hui. Parce que tant que l'homme et la femme ne sont que mâle et femelle, l'un et l'autre ne sont que des serviteurs de leur propre ego. Et donc automatiquement, le monde ne peut être que comme il est. Tout d'un coup, je reviens au récit biblique, tout d'un coup, Adam va se rendre compte que non. C'est parce que j'ai besoin. Mon chien, ma chienne m'apporte un amour inimaginable. Franchement, entre nous, je les préfère à mon épouse et à mes enfants. Parce qu'eux, ils râlent jamais. Tout ce que je leur dis, ils le font. Et puis quel amour ils me témoignent. Mais d'un autre côté, je ne me construis pas. Hachem voulait que Adam passe par cette expérience pour comprendre qu'il ne se construit pas. Et que finalement, à force d'aimer l'animal, il devient lui-même un animal. J'ai besoin d'autre chose, maître du monde. Hachem lui répond, t'as besoin d'autre chose. Regardez bien la réponse extraordinaire de la Torah. T'as besoin d'autre chose, je te le donne. Mais c'est différent d'animal domestique. C'est un ézer, ça va t'aider. Mais c'est qu'Enegdo, il est contre toi. Fabuleux. Malheureusement, ceux qui lisent la Torah en français n'auront peut-être jamais entendu cette explication-là, parce que malheureusement en français, 99 des Bibles traduites et trahies et falsifiées traduisent ce verset par « une aide à tes côtés ». C'est un crime, un scandale. Ça fait des millénaires que nos maîtres expliquent différemment. Parce que ça fait des millénaires que tout juif qui connaît l'hébreu jusqu'à aujourd'hui sait que le mot Kenegdo ne veut pas dire à ses côtés, mais contre lui. Selon comme les traducteurs étaient des fous furieux, peut-être payés par les nations pour, je parle des premiers traducteurs, pour falsifier la Bible. C'est pour ça qu'on leur a demandé de traduire une aide à ses côtés au lieu d'une aide contre lui. D'abord parce qu'ils n'auraient jamais compris ce que cela pouvait signifier. Donc ils ont préféré traduire de manière qu'ils peuvent eux comprendre, quitte à falsifier la Torah. Comme je le dis toujours, si le monde savait à quel point il a dans les mains une Bible trafiquée, falsifiée, assassinée depuis des millénaires, la majorité des soi-disant croyants qui fondent leur croyance à partir de la Bible baisseraient un petit peu la tête et viendraient avec beaucoup d'humilité chez un maître juif et demanderai avec beaucoup d'humilité, révélez-nous la Torah, la vraie, ça fait 2000 ans qu'on nous ment. Mais peu importe, la Torah nous dit la réponse d'Hachem, une aide contre lui. Comment tu peux m'aider en étant contre moi? Mais c'est justement ça la différence entre ton chien et ton épouse. C'est que ton chien, lui, tout ce que tu lui dis, il le fait. Et c'est pour ça que tu l'aimes et qu'il t'aime. Parce qu'en échange du fait qu'il fait tout ce que tu fais, tu lui donnes tous les jours un bon plat de viande, un bon pas de croquettes, peu importe. Il a ce qu'il veut, tu as ce que tu veux. Ton amour est gratuit, le sien est gratuit. Personne n'est contrarié. Et tout va bien. Mais le problème, c'est qu'un jour, on ne fera plus la différence entre toi et ton chien. Sauf que ton chien, il a quatre pattes, tu es sur deux jambes. Mais en vérité, c'est deux rex. Le rex à quatre pattes et le rex debout. Ton épouse, elle va t'aider, elle aussi. Mais Kenegdo, elle est contre toi. Ça veut dire qu'elle ne va pas toujours aller dans ton sens. Tu ne pourras pas lui dire, reste là, bouge pas, attends 10 minutes, je suis occupé. Ça ne va pas fonctionner comme ça. Qu'est-ce que tu as fait à manger? Il manque du sel. Mince, tu ne vas pas repasser ma chemise. Et de l'autre côté, tu es un feignant, tu ne bosses pas, tu ne ramènes rien à la maison, j'en ai marre d'avoir le frigidaire vide, à quoi tu me sers? Non. Ce discours-là, il n'est pas possible. Parce que c'est qu'un anecdo. Comprends que l'autre n'est pas là pour faire tes quatre volontés. Ou je vais le dire d'une autre manière. Peut-être que chacun fera effectivement un jour tout ce que l'autre a vraiment besoin. Mais pour ça, il faut le mériter. Il faut travailler dur. Ça prend des années. Et ces années de travaux, de travail, c'est ce qui va te construire. C'est exactement ce que nous dit Rashi sur le mot Kenegdo, contre lui. Rashi nous dit, si tu es méritant, tu ne trouveras pas dans ce monde une aide plus grande qu'elle. Mais si tu n'es pas méritant, tu ne trouveras pas dans ce monde quelqu'un qui te combattra autant qu'elle. C'est tout le cours. Ça, c'est une aide véritable. Parce que pour mériter son aide, je dois la mériter. Je dois travailler très très dur. C'est ce qui va me construire. Et quel est l'essentiel et l'essence du travail que je vais devoir faire pour mériter son aide? Eh bien, affaiblir mon ego. Le contenir. Ça ne sera plus « et moi, et moi, et moi », mais « et toi, et toi, et toi ». Et cette chanson, en France et dans le monde, on ne la connaît pas, parce que Dutronc, il chantait « et moi, et moi, et moi ». Il était le symbole de cette civilisation qui ne pense qu'à elle. Dommage qu'il n'y a pas eu un chanteur, peut-être après ce cours, on va savoir, on va se lever en France, un chanteur qui va réparer la faute de Dutronc et va chanter une chanson « et toi, et toi, et toi ». Peut-être. Mais c'est intéressant. Parce que finalement, le maître du monde a précédé Dutronc. Et c'est le premier qui a chanté « et toi, et toi, et toi ». Parce que la première chose qu'il dira à Abraham, ce n'est pas « viens vers moi », mais « va vers toi ». L'écha, va vers toi. Va vers toi. Dieu appelle Abraham, il lui dit « va vers toi ». Qu'est-ce que lui dit Dieu? Mon but, c'est que tu te construises toi, pas que tu me serves moi. Alors évidemment, pour arriver à toi, il faut que tu passes par moi. Mais reste pas coincé chez moi. J'ai pas besoin de toi. Moi, je suis Dieu. Je suis parfait. J'ai pas de manque. J'ai pas de besoin. Même pas le besoin qu'on prie devant moi et qu'on me loue et qu'on me dise « je suis le plus beau, le plus grand ». Il n'y a qu'un taré qui a besoin qu'on lui dise toute la journée « t'es le plus beau, t'es le plus grand ». Est-ce qu'on peut imaginer que c'est ça, ce que Dieu voulait en créant l'homme, de se faire chatouiller le nombril toute la journée, « t'es le plus grand, t'es le plus beau ». Alors c'est pas un Dieu, c'est un charlatan. Non. le vrai Dieu, le nôtre, dès le départ, il nous prévient. Va vers toi. Je t'ai créé pour que tu te construises. C'est vrai, ça passe par moi. Mais mon but, je te le dis dès le départ, c'est pas moi, c'est toi. Ben voilà, le bon Dieu est le premier qui a chanté « Et toi, et toi, et toi ». Absolument. C'est fabuleux. Donc, je reviens maintenant à ce récit biblique. Ezer Kenegdo. Ça ne va pas être possible maintenant. Tu ne peux pas lui dire « Couche-toi, lève-toi, va à droite, va à gauche, mange, mange pas. » Ça ne va pas être facile. Maintenant, on comprend la suite du récit. Tout d'un coup, il disparaît, on ne sait plus où il est, l'homme. Elle se retrouve seule et vient le Nahash. Même à un niveau très simple, dans le vécu journalier, on comprend ce qui s'est passé. Nos maîtres posent la question, mais où il était? Où il était? Nos maîtres répondent, il est parti dormir. Il dormait. Ben oui, j'en ai marre, tu me saoules, je vais me coucher, laisse-moi tranquille. Je m'enferme dans ma chambre, je ne peux plus t'entendre. Ben oui. Au bout de quelques minutes, chaque chose qu'il disait, elle le contredisait. Elle dit, j'en ai marre, tu me saoules, je vais dormir. Il est parti dormir. Et venu de Nahash. C'était la première fois que quelqu'un le contredisait. Il est parti dormir. Tout oublié. Aujourd'hui, il serait parti boire un verre d'alcool ou fumer un joint. C'est la même chose. Mais quand le mari fume un joint, qu'est-ce qu'elle fait la femme? Elle se retrouve toute seule. Et une femme seule, c'est une femme en danger. Le contraire, bien évidemment, aussi. Si c'est elle qui part fumer un joint, le mari se retrouve seul. Parce qu'elle n'est plus présente, elle n'est plus là. Ben, il va aller chercher ailleurs. Et bien c'est ce qui s'est passé. Elle est partie chercher ailleurs. Ou plutôt, elle s'est laissée venir chercher. Le Nahash est venu. Bien sûr. Quand un homme dort, la femme est dehors. Quand un homme dort, la femme est dehors. Absolument. Et donc, ce récit doit être compris d'une manière extrêmement simple, tout en étant extrêmement profonde. Il y a eu, dès le départ de l'apparition de l'identité adamique, une tentative de la construire. Mais ça n'a pas marché. Parce que c'était encore trop tôt. Peut-être que Adam et Chava étaient encore trop jeunes dans le sens de ce manque d'expérience. L'expérience qui va être forgée par l'histoire. Par les erreurs desquelles on apprend. Il va falloir des siècles jusqu'à ce que naisse le peuple juif. Et lui-même va tomber des milliers de fois, mais ne disparaîtra pas. Parce que quoi qu'il en soit, l'histoire de Adam et Chava a prouvé, une fois de plus, qu'on a besoin d'être à l'intérieur d'un peuple pour espérer pouvoir peut-être réussir à construire l'identité adamique. Mais seul, c'est impossible. C'est pour ça que je reviens sur ce que j'avais déjà dit cette semaine. Il est aussi très, 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 très important, parce que c'est une application directe de mon cours, que tous les non-juifs qui partout dans le monde se réveillent et prennent conscience et entament eux aussi un retour, qu'ils s'attachent, qu'ils s'identifient, qu'ils se sentent connectés, pas seulement à la Torah d'Israël, mais au peuple juif. C'est une nuance très très importante que j'aurai l'occasion, dans le cadre de mes cours, avec les Bnei Adam, de développer plus. C'est pas seulement un retour vers la Torah d'Israël, c'est aussi un retour vers Israël, dans le sens de peuple, dans le sens de terre, dans le sens de pays, afin de se sentir rattaché à une communauté qui est le seul réceptacle possible à la construction réelle de l'identité adamique et de la réparation de la faute de Adam. Alors, pour conclure, il faut comprendre la chose suivante. C'est que finalement, comme je ne cesse de l'expliquer, il ne faut pas chercher midi à 14h. La réparation du monde commence d'abord par la réparation de soi. C'est vrai, c'est loin d'être suffisant. Mais avant de construire une maison, tu as besoin d'avoir une fondation. Tu ne peux pas sauver le monde si toi-même t'es écroulé. C'est-à-dire que ton premier souci est d'abord de construire le petit monde qui t'entoure. Réussir ta vie de couple. Réussir ta vie familiale. Réussir ne veut pas forcément dire que tout le monde va être comme tu le voudrais dans tes rêves. Ça, c'est déjà plus tellement entre tes mains. Surtout au niveau des enfants. Mais au moins que les relations soient bonnes. Qu'on ait plaisir à être ensemble, plaisir à se retrouver. Qu'on se comprenne, qu'on se tolère. Plus encore, c'est précisément dans une famille où les uns et les autres ne sont pas forcément comme on l'aurait voulu, que réellement là on peut construire l'identité adamique. Parce qu'il va falloir apprendre à supporter l'autre et à l'accepter tel qu'il est. Ce que je dis est très important. Tous les parents rêvent d'avoir des enfants qui avancent exactement dans le même chemin qu'eux-mêmes. Et quand les enfants prennent un chemin différent, c'est dur pour les parents. Et des fois, la relation casse. Et si ça casse, alors tu risques de passer complètement à côté de ta mission sur Terre. De faire tout ce qui est en ton pouvoir pour réparer à ton niveau la faute de Adam. Parce que si tu casses avec tes enfants parce qu'ils ne sont plus comme toi, eh bien tu reproduis la faute de Adam. Et moi, et moi, et moi. Justement, ils ne sont pas comme toi. Eh bien, aime-les quand même. Reçois-les quand même. Passe au-dessus de toutes les différences. Et retrouve l'essentiel. Tu es le père, ils sont tes enfants. Tu es la mère, ils sont tes enfants. Élève-toi au-dessus de toutes les différences, de toutes les déceptions. Retrouve l'essence de la relation. C'est ça la réparation de la faute de Adam. Pareil avec ton épouse, pareil avec ton mari. Tu t'es très vite aperçu que jusqu'au mariage, tu vivais dans une illusion de croire que tu avais trouvé celle que tu cherchais dans tes rêves. Et au lendemain du mariage, tu t'es rendu compte que c'est tout sauf ce que tu voulais. Et bien, c'est pas grave. C'est un cadeau que le maître du monde t'envoie. Un vrai cadeau. Tu vas enfin pouvoir te construire. Parce que si c'est ton miroir, si quand tu la vois, tu te vois, eh ben, reste tout seul. Mais sache que si tu travailles, sans doute tu arriveras à cette situation merveilleuse, peut-être dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, où effectivement quand tu la verras, tu te verras. Mais ça, il faut le mériter. C'est après de nombreuses années de travail et de construction. Donc finalement, dans notre civilisation, à cette époque où la famille est devenue une ruine inimaginable, où il ne reste rien, plus de divorces que de mariages, plus de célibat que de divorces, où l'homme et la femme sont redevenus mâle et femelle, c'est là qu'il faut mettre le paquet. Parce que chaque famille réussie, dans le sens du cours, c'est-à-dire qu'on s'aime, on s'accepte et on construit ensemble malgré nos différences, chaque couple comme ça est le fer de lance de la délivrance finale. C'est sans doute pour cette raison que quand le maître du monde s'adresse à Abraham, il lui dit « Tu seras une bénédiction pour toutes les familles de la terre. le verseur est de dire, puisque c'est apparemment le sens, tu seras une bénédiction pour tous les peuples. Pourquoi les familles de la terre? Parce que justement, le but ultime du peuple juif, but qui commence avec Abraham, c'est de reconstruire les familles de la terre. Parce que la famille est le fondement des peuples. Et lorsqu'il n'y a plus de famille, il n'y a plus de peuple. Et c'est la raison pour laquelle ce sont les deux grands combats que mènent aujourd'hui les éminences grises de ce monde, mélanger les peuples et détruire les familles. Parce que ça va ensemble. Quand il n'y a plus de famille, tu peux mélanger. Puisque de toute façon, plus personne ne sait d'où il vient, qui il est et où il va. Donc tu peux mélanger. Ce sont les deux grands combats. Et ce sont nos deux grands combats à nous. Faire de l'anse de la délivrance du monde, reconstruire les familles et réapprendre aux hommes et aux femmes ce qu'ils sont, ce qu'ils devraient être, de leur redonner leur identité et de les sortir du grand mélange qui est la grande confusion. Voilà, comme je l'ai dit et je le redis, c'est le dernier cours de la semaine ce matin, jusqu'à dimanche 11 mars. Je serai absent pendant un long moment, toute la semaine prochaine. Malgré tout, je vais mettre encore deux cours avant mon départ. Un cours que j'ai donné cette semaine chez M. Cain et encore chez la famille Cain, encore un autre cours. Et donc, il y a de quoi réviser les cours de la semaine, plus les deux cours qui seront sur le site demain. Un rappel du groupe RAI, séminaire groupe RAI demain soir. Et je répète encore, il n'y aura pas cours demain matin à 8h30. Et on se retrouve pour une petite semaine à partir du 11 mars. Petite semaine, parce que comme je l'ai déjà annoncé, après, on rentre à nouveau dans la semaine juste avant Pessah. Donc on est trop occupés les uns les autres pour continuer le rythme normal. Après la semaine de Pessah, donc pas mal de perturbations maintenant pendant les semaines qui viennent. Mais quoi qu'il en soit, l'essentiel n'est pas la quantité mais la qualité. Vous avez de quoi faire sur le site. Et je ne m'inquiète pas pour tous ceux qui veulent vraiment apprendre. Il y a de quoi faire et de quoi s'enrichir et de quoi se construire. À tous et à toutes, une très très bonne journée et on se retrouve dans une dizaine de jours, si Dieu veut.